Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La Bolivie plonge dans l'inconnu. Le président Morales et ses successeurs désignés par la Constitution ont démissionné sous la pression de l'armée. Nous irons à La Paz dans un instant. Impasse politique en Espagne. À l'issue des élections législatives, l'extrême droite fait une percée. Le Parti socialiste perd 3 sièges et Ciudadanos s'effondre. Analyse d'Isabelle Labéry. Ils sont morts pour la France en opération extérieure. En ce 11 novembre, le président a inauguré un monument rendant hommage aux militaires tombés au Liban, au Tchad, en Afghanistan ou encore en ex-Yougoslavie. Et puis, sortir du glyphosate, pas si simple. Un rapport parlementaire pointe les difficultés et le coût élevé pour les agriculteurs. Nous ferons le point avec Anne-Laure Jumet. Qui va diriger la Bolivie? Il n'y a plus personne à la tête du pays depuis la démission forcée hier soir d'Evo Morales. Après 3 semaines de violentes manifestations, la police et l'armée ont lâché le président au pouvoir depuis 2006. Il s'est trouvé contraint à la démission, comme ceux qui auraient dû lui succéder selon la Constitution. La tension est très forte dans la capitale La Paz, qui a connu une nuit de pillage, et la crise politique est très très loin d'être résolue. La correspondance d'Alice Campagnol.
La Paz se réveille sous le choc. Après une nuit de terreur, plus rien ne bouge. Les téléphériques ne circulent plus. Aucune voiture ni aucun passant dans la rue. Dans certains quartiers pourtant, les violences continuent. Dans le sud de la ville, des groupes de partisans du MAS, le parti de gouvernement, armés de bâtons, sèment la panique dans la rue. Ces derniers sont très en colère depuis la démission d'Evo Morales, qui les dirige depuis plus de 13 ans. Le dépôt de bus a été entièrement incendié. Il ne reste rien des véhicules, seulement des carcasses en cendres. Les pros et les anti-Evo Morales s'affrontent depuis plusieurs jours déjà. Des maisons ont été incendiées du côté de l'opposition comme du côté du parti de gouvernement et les deux camps sont prêts à en découdre. Alors que l'ambiance était à la fête hier après-midi pour les manifestants opposés à Evo Morales, le climat s'est rapidement dégradé à la faveur de la vacance du pouvoir. Plus personne en effet ne dirige le pays depuis hier suite à la défection du président, du vice-président et des dirigeants des deux assemblées. Tous les Boliviens réclament désormais une session extraordinaire du Parlement afin de nommer un ou une nouvelle présidente par intérim.
L'Organisation des États américains appelle au respect de la loi en Bolivie. Hier soir, Evo Morales déclarait qu'un mandat d'arrêt illégal avait été émis contre lui. Il a reçu le soutien des présidents cubains et vénézuéliens ainsi que du président argentin. Tous trois dénoncent un coup d'État. Alors ce terme de coup d'État qui était précédemment utilisé par l'opposition, ce terme est-il justifié? Laetitia Perrier-Brusselet, maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste de la Bolivie, nous apporte son éclairage.
D'abord, les opposants d'Evo Morales, qui, imaginant qu'il y avait une fraude électorale, ont dit « Evo Morales est en train de faire un coup d'État, puisqu'il n'applique pas le jeu du processus électoral ». Peu à peu, ses opposants sont descendus dans la rue et à ce moment-là, Evo Morales, sentant son pouvoir vaciller, a lui aussi dit « Mais en fait, je suis moi-même victime d'un coup d'État ». Il a maintenu cette position jusqu'à sa démission. Il a dit « Je démissionne, mais c'est un coup d'État de la droite, ils prennent le pouvoir contre moi ». C'est assez rare dans l'histoire qu'un président qui d'abord se présente alors qu'il a perdu un référendum, il se présente quand même. Donc déjà sa candidature est illégitime. Après, il commet des fraudes électorales via le tribunal suprême électoral qu'il a noyauté auparavant. Et ces fraudes électorales ont été avérées par l'Organisation des États américains. Cette vision du coup d'État impérialiste de droite, c'est une vision qui est largement diffusée auprès des alliés d'Evo Morales, que sont le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, qui ne veulent pas le voir tomber. En fait, les heures qui viennent nous diront si l'armée prend ou pas le pouvoir en fait, pour rétablir un semblant de paix civile. Parce qu'en fait, il y a une espèce de spirale du chaos qui se met en place en Bolivie. Et même s'il y a eu 17 démissions au sein de son gouvernement, il y a encore des fidèles d'Evo Morales qui sont en train de brûler des arrêts de bus, des maisons. Et donc, il y a une situation qui devient incontrôlable dans la rue, conduit finalement l'armée à prendre le pouvoir pour rétablir l'ordre, dans le cas, je sais pas, d'un état d'exception. Et donc là, ça enverrait la Bolivie à ses années les plus noires, ses années de dictature militaire, d'instabilité politique, etc.
La géographe Laetitia Perrier-Brusselet répondait à Nadine Epstein. À l'issue des nouvelles élections législatives, la situation politique reste bloquée en Espagne et former un nouveau gouvernement risque de relever du casse-tête. Le chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sanchez, ne sort pas renforcé comme il l'espérait, mais affaibli de ces élections. Le parti d'extrême droite Vox a plus que doublé son nombre de sièges pour devenir le troisième parti d'Espagne, alors que les libéraux s'effondraient. Ciudadanos n'a plus que 10 députés contre 1957 auparavant, ce qui a poussé Albert Rivera à la tête du parti de centre-droit à démissionner. On retrouve notre envoyé spécial en Espagne, Isabelle Laberry.
À son pupitre, il lutte pour retenir ses larmes, mais il tient bon.
Nunca me tapado la cara.
Je ne me suis jamais voilé la face, je ne me suis jamais caché, dit celui qui dirige le parti depuis sa création, il y a 13 ans, et je sais que quand les choses vont mal, c'est la faute du chef. À demi-mot, Albert Rivera assume les alliances à géométrie variable qui ont brouillé son image. En 2017, Ciudadanos n'est plus social-démocrate, mais libéral-progressiste, coup de barre à droite, avec en tête l'idée de dépasser et de remplacer le Parti populaire comme grande formation de centre-droit. Un objectif qui, au début de l'année, conduit Ciudadanos à accepter l'appui de Vox, le parti d'extrême droite, pour former le gouvernement régional andalou. Alliance contestée qui se reproduira à Madrid et en Murcie. Très vite, le parti se trouve pris en étau entre les conservateurs et les radicaux. Entre les deux scrutins, Ciudadanos perd 2,5 millions de voix. Albert Rivera aurait pu tout avoir, mais son excès d'ambition et ses erreurs de calcul le contraignent à quitter la scène. Son départ ouvre une étape d'incertitude, mais il en est persuadé. Le centre politique existe et de nombreux Espagnols veulent continuer à voter libéral.
Isabelle Laberry à Barcelone. Au Royaume-Uni, Boris Johnson est soulagé. Aux élections du 12 décembre, Nigel Farage et son parti du Brexit ne présenteront pas de candidat dans les circonscriptions où la droite est déjà présente. Jusqu'à présent, il menaçait de prendre des voix aux conservateurs. Analyse depuis Londres de notre correspondant Antoine Gignot.
C'est un ralliement de circonstances. Je n'ai aucun amour pour les conservateurs, explique Nigel Farage, mais il faut être réaliste, le chef du Brexit Party le sait, s'il siphonne les voix de la droite, il risque de priver Boris Johnson de majorité au Parlement, le Premier ministre se trouverait une nouvelle fois dans l'impasse, incapable de déclencher le Brexit, pire, la gauche pourrait être tentée de réclamer un deuxième référendum et d'annuler la sortie de l'Union européenne. Terminé donc les discours anti-gouvernement, le Brexit Party ne présentera aucun candidat dans les circonscriptions tenues par les conservateurs, explique Nigel Farage, soit 317 au total. Nous allons, dit-il, nous concentrer sur les sièges occupés pour l'instant par le Parti travailliste. Un cadeau inestimable pour Boris Johnson. Les conservateurs, se réjouit le Premier ministre, n'ont besoin que de 9 élus supplémentaires pour retrouver une majorité et faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne avant la fin du mois de janvier. Retour donc côte à côte sur le devant de la scène politique de deux des principaux protagonistes de la campagne de 2016. Le troisième, le milliardaire Aaron Banks, n'est pas loin. Il lance cette semaine une application qui, circonscription par circonscription, va expliquer aux électeurs pro-Brexit pour qu'ils doivent voter entre les conservateurs et les candidats du Brexit Party.
Antoine Gignot à Londres. La Turquie met ses menaces à exécution. Elle a commencé à expulser ou à renvoyer dans leur pays d'origine des membres étrangers du groupe État islamique. 11 Français arrêtés en Syrie pourraient être concernés dans les prochains jours. Les précisions d'Anne Andlauer à Istanbul.
Selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, la Turquie a commencé par expulser, il n'a pas précisé vers où, un citoyen américain identifié comme combattant terroriste étranger. La confusion règne cependant sur son sort. L'agence de presse turque DHA a affirmant que cet Américain a été expulsé via un poste frontière avec la Grèce. Les douanes grecques lui auraient refusé l'entrée, rapporte encore l'agence, qui publie une vidéo de l'homme coincé dans le No Man's Land entre les deux pays. Les autorités turques n'ont fait aucun commentaire sur ces allégations. Un Danois a en revanche été renvoyé par avion vers Copenhague, tandis qu'un Allemand attendait de subir le même sort. 7 autres Allemands doivent par ailleurs être renvoyés jeudi. Tous étaient gardés jusqu'ici dans un des centres de renvoi où les autorités turques détiennent les étrangers interdits de séjour. Ankara annonce aussi le renvoi prochain d'étrangers arrêtés en Syrie. Cela concernerait pour l'instant 2 Irlandais, 2 Allemands et 11 Français. Ces cas sont plus problématiques car la plupart des États européens, dont la France, refusent de rapatrier leurs citoyens qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Contactés par téléphone, des responsables turcs ont refusé de s'exprimer sur les renvois en cours, précisant simplement que ces procédures allaient se poursuivre, je cite, « avec détermination ».
Plusieurs marches étaient organisées aujourd'hui en Cisjordanie pour marquer le 15e anniversaire de la mort de l'ancien président palestinien Yasser Arafat. Elles ont parfois tourné à l'affrontement avec les forces israéliennes. Et dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al-Haroub, entre Bethléem et Hébron, un Palestinien de 22 ans est mort après avoir reçu une balle en pleine poitrine. Une cérémonie officielle, celle-là, s'est déroulée à Ramallah, ville siège de l'autorité palestinienne, autour du tombeau de Yasser Arafat. Ce mausolée est situé dans le complexe présidentiel présidentielle de la Moukata, où sont installés les bureaux de Mahmoud Abbas, et où Arafat avait été assiégé pendant 2 ans et demi par l'armée israélienne. Ses anciens bureaux et le bunker sont devenus un musée, un lieu très politique qu'a visité Frédéric Mettezo.
La géographie des lieux s'inspire de la vie et de la mort de Yasser Arafat. Entre le portail et son tombeau, il y a 75 pas, car il est mort à 75 ans. Son mausolée, en marbre blanc cubique inspiré de la Kaaba, fait 11 mètres sur 11, car il est mort le 11e jour du 11e mois. Il est omniprésent dans le musée, en photo ou en vidéo. Au sous-sol où il a passé les dernières années de sa vie, des sacs de sable, son bureau, le dortoir des gardes du corps et sa chambre.
The room is very small.
Sama, 23 ans, est guide au musée.
We have his bed, pretty small bed.
La pièce est minuscule. Vous avez son petit lit, sa garde-robe, vous pouvez voir ses vêtements, ses chemises, son keffieh, oui, qui était le symbole des Palestiniens. Je me souviens bien de lui. C'est un leader très connu. Même s'il est mort en 2004, les enfants d'aujourd'hui se souviennent de ses réalisations.
Still the kids today remember his accomplishments.
Effectivement, ce jour-là, deux groupes d'écoliers visitent le musée. Dans les vitrines, ils découvrent le pistolet d'Arafat, ses lunettes à grosse monture, ses discours tapés à la machine ou bien écrits à la main, son passeport. L'exposition entremêle sa vie et l'histoire des Palestiniens. C'est un outil de communication, explique Ahmed Sobo, le directeur du musée et ancien ambassadeur.
We are exposing here.
Ici, nous présentons notre narration. Comment nous vivions avant le mandat britannique et avant l'État d'Israël. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant est la lutte continue du peuple palestinien.
Vous croyez toujours à cette solution à deux États ?
Sincèrement, la solution à deux États, ce n'est pas mon problème. L'existence d'Israël n'est pas mon problème parce qu'il est là et n'est pas mis en danger. Mon problème, c'est l'existence de mon État et l'indépendance de la Palestine, conformément au droit international.
Parfois, les notices du musée enjolivent l'histoire. Non, Arafat n'est pas né à Jérusalem, il est né au Caire. Elle reste évasive sur son soutien à Saddam Hussein, mais elle n'oublie pas de mentionner la Shoah ou l'œuvre d'Itzhak Rabin et de Shimon Peres, un équilibre qu'apprécie Hamza, un étudiant toulousain en visite.
Il n'y a pas vraiment de « tout est blanc, tout est noir, l'un est mauvais, l'un est bon ». On a la chance, en tant que Français, en tant qu'étranger, de vraiment voir les deux côtés. Alors c'est vraiment très très complexe, encore plus que ce que je pensais. J'en apprends tous les jours.
La glorification d'Arafat souligne par contraste les faiblesses de son successeur Mahmoud Abbas. Nasser Al-Kidwa, neveu de Yasser Arafat, préside la fondation du même nom. Il a été ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne.
C'était mon oncle et sans aucun doute mon modèle, même si à ce moment-là tout n'était pas rose. Néanmoins, quand on regarde en arrière, cette époque nous manque car nous avions une démocratie riche. Nous regrettons le droit à ne pas être d'accord, mais cela reviendra.
Le musée Arafat enregistre 5 à 7 000 visites par mois, dont 40% d'étrangers.
Yasser Arafat est mort il y a 15 ans et aujourd'hui son successeur Mahmoud Abbas se trouve politiquement très affaibli. Vous pouvez lire à ce sujet un article de Frédéric Mettezo sur franceculture.fr. L'an dernier, les cérémonies du 11 novembre avaient pris une ampleur toute particulière à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Cette année, la tradition a été respectée avec un dépôt de gerbes devant la statue de Georges Clemenceau et un temps de recueillement devant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Mais hommage a également été rendu aux combattants morts pour la France en opération extérieure depuis la fin de la guerre d'Algérie. Dans le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris, Emmanuel Macron a inauguré un monument dédié à ces 549 militaires. Vous étiez sur place, Nathalie Hernandez.
C'est un président au visage grave qui a inauguré ce mémorial dédié aux soldats morts en opération extérieure depuis 1963. Le chef de l'État a d'abord déposé une gerbe devant la sculpture réalisée par Stéphane Vigny. 6 soldats de bronze, 5 hommes et une femme, représentant les 3 armées. Ils portent un cercueil invisible. Pour redonner vie à ces combattants, quelques instants, des lycéens de Castres et d'Agen ont lu les témoignages de ces soldats partis combattre loin de chez eux.
Mali, 2016.
Je vis partir mon frère. C'est un soldat que la République fit revenir des sables du désert. Un soldat de 28 ans, que le ciel d'encre et de scintillement s'ouvrant au-dessus de lui, dans l'immensité solitaire du Sahara, avait émerveillée la veille de sa mort.
Autour de cette sculpture, 549 noms de soldats sont gravés, dont celui de deux femmes engagées sur 17 théâtres d'opération. Tous ont donné leur vie pour défendre les valeurs de la République, a rappelé Emmanuel Macron.
La perte d'un être cher est irréparable, mais celui qui meurt pour la France ne meurt pas en vain. Celui qui tombe au champ d'honneur ne tombe jamais pour rien. Sa vie donnée, ce sont des vies protégées, des vies sauvées. Sa vie donnée ne sera pas oubliée. Jamais.
Le chef de l'État, qui n'a pas oublié non plus les soldats actuellement déployés, ils sont nos sentinelles et notre bouclier, a conclu Emmanuel Macron.
Nathalie Hernandez. Et dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin et ses invités nous expliqueront pourquoi la France continue de faire la guerre hors de ses frontières. Rendez-vous à 18h20. La spécialisation de l'économie française entraîne une accentuation des inégalités sociales et territoriales. C'est ce que pointent les économistes de Bercy. Alors que se développaient d'un côté des secteurs à haute valeur ajoutée et de l'autre les services à la personne, l'industrie de moyenne technologie, elle, se contractait, avec pour conséquence, Hakim Kasmi, la disparition de certains types d'emplois.
Oui, depuis 2006, notre économie a eu tendance à se spécialiser en s'orientant surtout et en privilégiant les secteurs comme la pharmacie, l'aéronautique et la chimie, ou encore les services comme la finance, l'immobilier et les services à la personne. À l'inverse, l'industrie dite de moyenne technologie s'est contractée, à commencer par l'automobile, les produits électroniques, la chimie et les équipements. Résultat, face à cette déformation du paysage économique, le profil des emplois demandés a lui aussi changé, ce qui se traduit par une contraction des emplois intermédiaires ou, dit, peu qualifiés. Alors, par exemple, et concrètement, pour deux emplois intermédiaires qui ont disparu dans l'industrie, seulement un emploi très qualifié ou peu qualifié a été créé. Du coup, les entreprises qui voudraient recruter dans l'industrie ont aussi du mal, à cause des formations qui sont de moins en moins adaptées ces dernières années. La France privilégiant surtout les filières longues universitaires qui sont très valorisées, contrairement aux filières professionnelles, contrairement à nos voisins allemands, par exemple. Enfin, le repli de l'industrie est aussi synonyme d'un recul des aptitudes et surtout du fait de pouvoir évoluer dans sa carrière. En effet, 15% des peu diplômés de 50 à 60 ans ont accès à une fonction d'encadrement dans l'industrie contre seulement 9% dans les services.
Hakim Kasmi, comment la France se prépare-t-elle à la sortie du glyphosate? L'échéance s'approche, c'est dans un peu plus d'un an, et un rapport parlementaire appelle le gouvernement à clarifier certains points. Il souligne le coût de l'abandon de cet herbicide bon marché et les difficultés de certaines filières pour s'en passer. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
La ministre de la Transition écologique a déjà réagi.
Oui, difficile de mettre en conformité les décisions politiques, la sortie du glyphosate en 3 ans et les actes. Voilà ce que dit en creux ce rapport. Et d'ailleurs, le constat qu'en tire la ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, est éloquent. Écoutez ce qu'elle disait hier chez nos confrères de France Inter.
Ce rapport, il est intéressant parce qu'il pointe que c'est pas en claquant dans les doigts qu'on décide comme ça qu'on arrête le glyphosate, qu'il faut accompagner les transformations, proposer des substitutions, notamment du désherbage mécanique. L'objectif, c'est bien de sortir de l'essentiel des usages au 1er janvier 2021 et de tous les usages au 1er janvier 2023.
Ce rapport parlementaire demande justement au gouvernement de clarifier la situation. Autrement dit, préciser rapidement le nom des filières qui devront être prêtes pour le 1er janvier 2021 et à l'inverse, dire celles qui auront 2 ans de plus pour se mettre en conformité.
La mission d'information souligne justement les difficultés de certains secteurs.
Oui, notamment celui des exploitants qui ont recours à la technique de conservation des sols, pas de labour, mais une utilisation annuelle de glyphosate pour nettoyer les parcelles. Il va falloir accompagner les filières vers la transition. Ce qui est en jeu, c'est la survie même de certaines exploitations, souligne ce rapport, car la sortie du glyphosate a un coût évalué par les professionnels entre 50 et 150 euros l'hectare.
Anne-Laure Jumet, la terre a tremblé un peu avant midi près de Montélimar. Un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a secoué la vallée de la Drôme et l'Ardèche. 4 personnes ont été blessées, l'une grièvement. Dans la commune du Teil en Ardèche, au moins 200 maisons sont endommagées. C'est le cas aussi du collège et de 2 écoles. Et la toiture d'une église s'est effondrée. Demain mardi, le temps sera souvent nuageux avec des averses, mais le soleil dominera dans le sud. Au lever du jour, il pourra faire moins 2 dans le centre-est, mais déjà 12 à 13 en Corse. Les maximales atteindront 6 à 13 degrés jusqu'à 15 le long de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.